morning edition from NPR News.
Das ist hinsam in der Haus.
France Inter, le 18-20.
L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire, dit Donald Trump aujourd'hui, tout en parlant de nouvelles négociations, alors que évidemment le contentieux avec l'Iran est très loin d'être soldé. Nouvelles manifestations aujourd'hui à Téhéran, nouvelles menaces contre l'Irak également. Voilà où nous en sommes en ce lundi soir, et ça mérite évidemment qu'on s'y attarde. Le bruit du monde ce soir est en Côte d'Ivoire, où on fait pousser des arbres pour faire venir la pluie. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars et à Amélie Perrier. Nous serons à New Delhi, où l'université Nehru a été attaquée, et où Malmö, une statue a été déboulonné, je ne vous dis pas laquelle encore. Le Monde selon Trump, saison 3, et Grégory Phillips, vous verrez en ce jour du procès, d'ouverture du procès de Weinstein, en quoi MeToo a aussi bouleversé la politique américaine. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four qui se demande comment l'Europe a disparu du paysage en Iran, en Syrie, en Libye et peut-être aussi ailleurs. Le Monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Bernard Ourcade.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. Bernard Ourcade, tous les ingrédients de l'engrenage, ils sont là, ils sont en place. Et en même temps, ça fait presque 4 jours maintenant que le général Soleimani est mort. Et on en reste au stade de l'invective. Alors à votre avis, quel est l'intérêt stratégique de l'Iran au moment où on se parle? Est-ce que c'est attendre, choisir une cible, chercher la riposte, chercher une autre forme de riposte? Qu'est-ce qui peut se passer en ce moment dans ces têtes-là?
De ne pas jouer la politique de Trump.
Exactement.
Et réagir.
Refuser de jouer ce jeu-là.
Absolument, d'être un État sérieux, respectueux des lois internationales, défendant ses intérêts, mais sérieux. Quand ils vont par exemple relancer le nucléaire, ils disent d'accord, on augmente l'enrichissement, mais nous restons fidèles à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, on accepte les contrôles des inspecteurs. L'Iran est un pays sérieux, une république légale, alors que Trump est un État voyou et qui fait un peu n'importe quoi.
Mais est-ce que ça veut dire que il peut ne pas y avoir de réponse en fait réellement, et que est-ce que, alors j'imagine qu'on mesure les deux côtés, ne pas répondre c'est aussi perdre la face auprès d'un certain nombre de gens en Iran et dans le monde chiite, et en même temps, comme vous dites, c'est aussi une manière d'être le seul adulte au fond dans la salle. Est-ce qu'on peut imaginer une non-réponse réellement?
J'imagine un peu cela, de façon un peu optimiste. On se trouve peut-être aujourd'hui un petit peu comme on était en 2012-2013, à l'époque où la tension sur le nucléaire était extrême, où on attendait la guerre contre l'Iran, la bombe atomique iranienne allait exploser. Et ça a mené finalement l'Iran, qui est en position de force, à la négociation, et tout le monde s'est dit il faut négocier avec l'Iran, et 2 ans plus tard un excellent accord était trouvé pour relancer l'Iran. Et ça aurait pu marcher, puisque l'idée à l'époque était de dire on arrête le nucléaire, mais surtout on permet à l'Iran de devenir une puissance économique normale, et la bourgeoisie moyenne iranienne nouvelle, qui est là, dynamique, ouverte, était prête à être le leader du Moyen-Orient, mais pas un leader militaire, un leader en économie, etc. Trump a cassé la baraque. Mais finalement, aujourd'hui, avec la situation dramatique, qui était déjà dramatique dès le départ, vu bien se dire, la guerre, elle y existe au Moyen-Orient. Guerre entre l'Iran et les États-Unis, guerre contre Daesh, guerre entre Israël et les Palestiniens, guerre aux oppositions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, tout le monde se fait la guerre.
Et avec des alliances qui se renversent et qui se déversent, parce qu'il faut quand même se souvenir aussi que c'est le même Soleimani qui, d'une certaine façon, avait aidé les Américains à combattre Daesh en Irak. Donc tout ça, en plus, est mélangé. C'est pas comme si c'était simple, en quelque
sorte. Et aujourd'hui, la tension est telle qu'on peut se dire finalement, le danger est tellement grand et tout le monde dit, attention, on ne peut pas laisser Trump s'amuser à bombarder les 52 mosquées ou sites archéologiques iraniens. Vous disiez tout à l'heure que tout est mélangé. Effectivement, il faut se souvenir que Soleimani était à la fois un général, faisant la guerre avec toutes les horreurs qu'il y a dans la guerre. Quand il a pris Alep ou quand il faisait le travail en Syrie, entre guillemets, c'était effectivement un général qui faisait des dégâts. Mais c'est aussi quelqu'un, parce qu'il était l'initiateur et l'organisateur des différentes milices de tueurs ou de voyous qui sont nécessaires pour faire la guerre dans ce genre de pays, il est capable aussi de les contrôler. Et moi, ce que je crains aujourd'hui, c'est que la mort de Soleimani fasse qu'il n'y ait personne à la hauteur pour contrôler toutes ces milices et toutes ces forces qui sont prêtes à en découdre dans toute la région.
Parce que j'allais vous poser la question aujourd'hui, une guerre et on va quand même y mettre des guillemets, c'est compliqué de se dire que c'est un pays contre un autre. Enfin, on sait bien que c'est pas aux États-Unis que l'Iran frapperait s'il y avait riposte. Enfin, en tout cas, a priori. En revanche, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a le Yémen, il y a des intérêts américains partout et il y a des pro-iraniens partout. Donc, est-ce que le régime est capable de maîtriser tout cela autour? Est-ce que le risque, c'est pas beaucoup plus celui-là, au fond?
Oui. L'Iran dispose, j'appelais cela, d'un archipel de minorités qui sont des alliés. Un petit archipel, il suffit d'un groupe de minoritaires quelque part, l'Iran les soutient, ça met un caillou dans le soulier du grand voisin. Et donc, les hypothèses ne manquent pas. Cela dit, les Iraniens ont bien décidé de cibler une cible militaire américaine. Ce qu'ils avaient évité de faire jusqu'à maintenant, pas un seul américain soldat n'a été tué par les Iraniens depuis des décennies. Donc, on peut s'attendre effectivement à ce que le champ de bataille soit l'Irak. Parce qu'en Irak, vous n'avez plus que 5000 militaires américains qui sont concrètement maintenant, ils disent, prisonniers dans leur base militaire. Ils refusent de faire la guerre.
Et dont l'Irak voudrait qu'ils s'en aillent.
Et donc, vous en avez un millier à Bagdad pour protéger l'ambassade. Et grosso modo, il y a une grosse base militaire aérienne avec une grande piste d'aviation à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Ces gens-là, ils sont encerclés par des milices. Et des milices qui sont aujourd'hui capables, des armes lourdes, de pouvoir faire beaucoup de morts. Or, pour Trump, avoir 50 morts ou 100 boys tués en Irak, c'est dramatique pour sa campagne électorale. Et donc, c'est pour l'Iran une menace extrêmement importante. Posez la question, est-ce qu'ils vont passer à l'acte? Peut-être pas. Ils vont montrer qu'ils sont capables de tuer 300 Américains en Irak très prochainement. Et donc cette démonstration amènera peut-être Trump à réviser sa politique.
Mais est-ce que les États-Unis, au fond, quand on entend, quand on lit surtout les tweets de Donald Trump, on a l'impression qu'on pousse au crime en quelque sorte. Est-ce que les États-Unis pensent au fond d'eux que l'Iran n'a pas les moyens d'une riposte à la hauteur de la mort de Soleimani? Et peut-être même que là-dessus, les Américains ont raison.
Non, là, je crois qu'ils se trompent. Et en particulier, ils viennent de dire « je vais cibler 52 sites culturels iraniens ». C'est-à-dire, l'Iran est le pays du monde, je crois, qui a le plus grand nombre de sites parrainés par l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO.
Mais d'ailleurs, l'UNESCO a réagi, effectivement.
Absolument. Alors, on imagine, vous vous souvenez que les talibans avaient détruit les Bouddhas de Bamiyan avant le 11 septembre. On imagine Trump bombardant Persépolis avant de passer... Enfin, c'est là, réunir le monde entier contre lui et faire une unité nationale contre l'Iran, en Iran contre lui, de façon inimaginable. C'est une faute politique considérable.
Et c'est fou ce que vous dites, Bernard Hourcade, parce que le monde entier se soulèverait probablement plus facilement si on bombardait Persépolis que si on bombardait un site, qu'il soit nucléaire, militaire ou autre.
Absolument. Et donc, il y a une campagne médiatique actuellement très très forte des deux côtés. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, toutes ces guerres sont à usage multiple. Il ne faut pas oublier que pour les Iraniens, Soleimani, c'est l'homme qui a empêché Daesh de prendre le pouvoir. Et donc, c'est ça qui compte. Or, en France, il ne faut pas l'oublier, notre ennemi, c'est Daesh, ce n'est pas le gouvernement syrien, par exemple. Alors, c'est vrai que Soleimani a fait la guerre, une sale guerre contre favorisant Bachar el-Assad, mais il a aussi contrôlé Daesh. Et ce que je crains maintenant, c'est que personne n'est capable de contrôler Daesh aujourd'hui.
Alors, mais j'ai quand même une frustration sur ma question précédente. Est-ce que les Iraniens, selon vous, ont les moyens de répliquer à la hauteur symbolique? C'est quoi la hauteur symbolique en échange, pardon de le dire comme ça?
La hauteur symbolique, c'est de faire quelques Américains tués quelque part. Quelques boys tués. Bon. Et savent que c'est considérable aux États-Unis. Et ça, c'est facile à faire. On peut très facilement, une armée, même iranienne affaiblie, est capable de tuer, malheureusement, 10 soldats américains ou 50 ou 100.
Ce qui est toujours très impressionnant, vous l'avez évoqué vous-même, vous parliez des fameux 52 sites que Trump menace de bombarder. 52 comme les 52 personnes qui ont été retenus en otage en 1979 dans le fameux épisode de l'ambassade. Et c'est fou de se dire qu'au fond, toute la politique iranienne des États-Unis part de cet événement-là, de ce moment-là qui n'a pas été vengé. Si on en est encore là, mais il n'y a vraiment aucune chance pour que ça s'arrête, ni que ça change, en fait.
Jules César a franchi le Rubicon et donc on est encore là. Effectivement, mais c'est une réalité.
Et pour le coup, là, pas que Trump.
Absolument.
Précédemment, tout le temps, depuis Carter, en gros, on en est toujours là. En fait.
Et les démocrates en particulier. Les démocrates qui ont été pro-iraniens, en quelque sorte, ont été extrêmement humiliés par les Iraniens. Et donc, il y a un consensus anti-iranien en Iran, aux États-Unis, d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, ce que je vois le plus grave, si vous voulez, c'est aussi que cette crise, je suis optimiste en disant, elle va être tellement grave, cette crise, que tout le monde s'y met. Et on aura peut-être une grande négociation. Les Russes, les Européens, les Chinois, tout le monde s'y mettra, l'Arabie Saoudite, la Turquie, pour dire attention, c'est allé trop loin, il faut arrêter. Et donc, c'est tellement positif. Cela dit, qui peut contrôler les différentes milices qui peuvent faire des bêtises à droite à gauche et tuer 50 boys, ce qui entraînera des réactions américaines incontrôlables.
Vous pensez, pardon, je vous ai interrompu.
Non, je vous en prie.
Vous pensez que l'Europe a encore un rôle à jouer là-dedans? Moi, on a l'impression que cette fameuse, on appelait ça la diplomatie nucléaire, un petit coup d'uranium, attention, on rediscute, on remet tout ça dans le panier. On a l'impression que tout ça c'est terminé, en fait. Ou est-ce que ça existe encore?
Oui, ça existe encore. Tout le monde le dit, l'Europe, combien de divisions, ouais. Effectivement. Les efforts du président Macron pour faire quelque chose ont échoué, mais n'ont pas échoué complètement. Il a toujours le numéro de téléphone portable de Rouhani, et il devait se téléphoner aujourd'hui. Bon, donc c'est utile tout cela. Et l'Europe, même si ce n'est qu'un gramme dans une balance, mais un gramme ça peut faire même pencher du bon côté, même s'il y a 10 tonnes de chaque côté. Donc il ne faut pas désespérer des efforts européens, et russes aussi. La Russie, évidemment, a beaucoup de choses en main. Mais le problème, c'est que les Iraniens aujourd'hui s'étaient révoltés, en Irak aussi, et dans toute cette nouvelle dynamique qui était sociale et politique lourde qui était en place, est en train d'être éradiquée par cela. Et on voit ce nationalisme qui monte, et ce n'est pas une bonne chose.
Alors on va y revenir dans un instant. Vous avez prononcé le mot de Poutine, juste en un mot. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est bien discret pour l'instant, ce Vladimir Poutine. Est-ce que c'est là qu'on voit la réelle influence diplomatique d'un pays comme la Russie dans cette zone-là?
Oui, la Russie, quand même, c'est elle qui mène la danse en Syrie. C'est elle qui est sur le terrain, concrètement. Donc c'est un gros partenaire qui joue un peu dans tous les côtés, qui va aussi bien en Arabie Saoudite qu'en Iran. Et donc effectivement, par le biais des incohérences américaines, en ne faisant rien, la Russie gagne du terrain. Et donc aujourd'hui, l'Europe étant assez faible, la Russie, sans rien faire, avance tranquillement dans le Moyen-Orient.
Vous l'avez dit, Bernard Ourcade, on avait laissé l'Iran la dernière fois qu'on en a parlé, et même ensemble, sur ce moment de manifestation très important qui a été quasiment étouffé, qui a même été réprimé de manière extrêmement importante. Mais un mouvement social est en train de naître. Qu'est-ce qu'il reste de ça après cette histoire? Est-ce que ça engloutit intégralement un mouvement comme celui-ci ou pas? Est-ce que l'Iran, au fond, se retrouve derrière ses leaders quand on est attaqué quasiment de front par les États-Unis?
Oui, il est incontestable que les manifestations d'aujourd'hui dépassent la norme habituelle. Ce n'est pas un consensus avec 90% des Iraniens, non. Mais ça dépassait les manifestations de propagande habituelles. Il y a vraiment un ressentiment. Le nationalisme iranien n'est pas une faible chose et ça s'est renforcé. Et ça, effectivement, fait passer au deuxième plan les revendications sociales qu'il y avait. Et en Irak, pareil. Et au Liban, pareil. Donc il est certain que on trouvera difficilement un consensus national en Iran pour combattre les Américains, même si. Mais d'un autre côté, cette revendication des classes moyennes dans tous les pays du Moyen-Orient, elle existe, elle est là. Et donc, en Algérie, pareil.
Oui.
Et donc, on voit partout des gouvernements qui bloquent ces évolutions. Mais in fine, est-ce que cette société ne finira pas un jour par déboucher? Et peut-être justement que l'assassinat de Soleimani est un peu la faute qui dépasse le crime. Hein. Et donc, ce qui déclenchera peut-être un processus avec tous ces bouleversements où finalement la société iranienne, égyptienne ou de Beyrouth retrouvera ses petits parce que les grands auront fait trop de bêtises.
Parce que justement, pendant ces fameuses manifestations, y compris les manifestations sociales en Iran, ce qu'on voyait sur les pancartes, c'est un pays qui est pris à la gorge, l'Iran, économiquement à cause des sanctions, on voyait sur les pancartes aider les gens ici au lieu d'aller en Irak, au lieu d'être au Liban, etc. Donc, après la mort d'un Soleimani, est-ce que ces revendications tiennent toujours? Est-ce qu'elles ont encore un sens, en fait?
Oui, toujours, et encore plus. Bon, les gens ne soutenaient pas Soleimani, les opposants au régime islamique. Et donc, ils ont dit, il est mort, tant pis pour lui, ou tant mieux. Mais ils ont considéré aussi que Soleimani était un général de la République iranienne, de l'État iranien, de la nation iranienne. Donc, on proteste. Les Américains, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous touchez l'identité nationale, la fierté nationale iranienne. Mais deuxièmement, le fond du problème reste là. Et on disait que Soleimani, justement, était en train de voir comment pouvoir sortir de ce piège dans lequel l'Iran est tombé en écrasant finalement l'Irak, en étant avec ses gros sabots dominant la politique irakienne ou syrienne. L'Iran n'a pas les moyens de faire cela. Et Soleimani, qui est un homme intelligent, connaissait si bien ses limites. Mais il était capable justement de proposer une stratégie de recul. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de bouleversements, mais les grandes tendances de l'Iran, de la classe moyenne iranienne nouvelle, issue de la République islamique, est toujours là.
Est-ce que ces bouleversements, ces changements-là, est-ce qu'on les voit dès le mois de février? Il y a des élections en Iran au mois de février. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, selon
là,
vous?
Les plus radicaux l'emportent, bien évidemment, parce que à court terme, ceux qui disaient très justement, quand nous avions une bombe atomique sous le coude, on avait peur de nous et on a négocié, on a obtenu quelque chose. On n'a plus de bombe atomique sous le coude, on nous méprise, on nous assassine en général. Résultat, soyons radicaux. Et c'est imparable. Et donc, actuellement, vu le désespoir qu'il y a, mais... Pourquoi ? L'Iran est un pays qui rebondit. L'Iran perd les guerres, on dit, mais gagne la paix. L'Iran a perdu un général, a perdu les guerres en Irak et en Syrie peut-être, finalement, il doit se retirer. Mais peut-être ça déclenchera un processus vertueux et les sociétés ou même les gens au pouvoir en Iran se rendront compte qu'ils ne peuvent pas durer longtemps comme ça.
Mais attendez, qu'est-ce que si les plus extrémistes l'emportent aux élections du mois de février, qu'est-ce qui se passe après ? Vous me parlez de cette fameuse diplomatie nucléaire qui continue à fonctionner, des Européens qui, selon vous, ne sont pas encore tout à fait sortis de cette danse-là. Si on a un régime beaucoup plus dur, qui l'a pour le coup sur la question nucléaire, on peut imaginer dire attendez, nous, on y va avec notre uranium, ça nous fait reculer de combien de temps au fond?
Oui, il est certain que le nucléaire est stratégique, tout le monde s'y mettra. Donc les Iraniens savent très bien qu'il ne faut pas aller trop loin de ce point de vue-là. Cela dit, le Parlement passe à droite en quelque sorte, ça n'empêchera pas qu'il y ait des élections présidentielles l'année suivante en Iran, les rapports de force politique resteront les mêmes. Cela dit, on s'attend à court terme à avoir évidemment beaucoup de difficultés, dont les Iraniens payeront le prix, et je pense notamment aux gens en prison, je pense à Farid Badelka et Roland Marshall, qui sont mes deux collègues en prison. La situation qui se passe actuellement en Iran n'est pas favorable à leur élargissement, parce qu'ils sont évidemment loin d'être une priorité, je pense, pour le gouvernement iranien. Cela dit, restons optimistes, et peut-être que ces bouleversements feront comme ils ne comptent pas, on les libérera.
Mais je vous écoute depuis tout à l'heure, Bernard Horcade, vous êtes un garçon optimiste, en fait, y compris en ce moment où on a l'impression que la guerre est à la porte du Proche et du Moyen-Orient.
Quand on est chercheur, on cherche à voir comment ça marche. Je cherche biologie sur un microbe, je cherche à voir l'antibiotique qui permettra de résoudre le problème. Et donc mon job, c'est d'essayer de trouver l'antibiotique qui permettra d'y voir un peu plus clair dans l'intérêt de tout le monde.
Est-ce que vous avez le sentiment que Trump, au fond, a raté une occasion de faire tomber le régime sans la guerre?
Ah oui, oui, oui. Il est évident que s'il n'avait pas retiré, s'était pas sorti du nucléaire, aujourd'hui il y aurait des entreprises internationales en Iran par milliers et la société iranienne serait en pleine évolution et le régime de Téhéran aurait évolué tranquillement, sans crise majeure et on aurait une autre perspective au Moyen-Orient.
En attendant, c'est une autre en effet que nous avons et ce sera l'occasion de vous revoir avec grand plaisir. Bernard Horcade, merci beaucoup. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde et c'est en Côte d'Ivoire où l'on plante des arbres pour faire venir la pluie. Figurez-vous, le bruit du monde, la suite est sous les radars. Amélie Perrier, l'université Nehru à New Delhi, prise d'assaut, ou presque.
Oui, c'est un peu comme la Sorbonne et là, des assaillants ont débarqué avec des barres de fer et ont ensanglanté cette prestigieuse université.
Et on y va ensemble dans un instant. Le monde selon Trump et Grégory Phillips. Grégory, puisque vous êtes au procès Weinstein à New York, vous allez nous dire ce que MeToo a changé dans la politique américaine.
Ah oui, parce que ici aux États-Unis, l'onde de choc a été partout dans le monde du cinéma, des médias, mais aussi de la politique, et notamment au Congrès américain, et puis à la Maison-Blanche. N'oubliez pas qu'il y a un président qui est accusé, ou en tout cas soupçonné par plusieurs dizaines de femmes d'agression sexuelle.
On n'oublie pas, et à tout à l'heure, le monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir.
Mes hommages.
Qui poursuivra la conversation qu'on vient d'avoir.
Mais alors, moins antibiotique et optimiste,
voilà,
peut-être.
Et ben exactement. Vous pensez que l'Europe est un peu aux abonnés d'absence.
C'est ça, on va se demander si elle ne compte pas désormais pour des prunes dans tout le Moyen-Orient.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Ben, il passe par Lyon, tiens, avec le groupe Céleste. She's My Sunshine, c'est dans la playlist d'Inter.
And now
Et Céleste, donc, qu'on vient d'entendre, vient de Londres et non pas de Lyon. Je voudrais dénoncer ici Amel, qui est stagiaire. Ça sert à quoi d'avoir des jeunes dans cette équipe si c'est pour se tromper? Allez, ce soir, le bruit du monde nous emmène jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous l'entendez juste dernièrement. On avait déjà parlé du dérèglement climatique, évidemment, dans ce pays. La sécheresse pénalise les agriculteurs. Alors, une ONG a une idée, c'est une idée toute simple, planter des arbres pour amener la pluie. Vraiment. Pour l'instant, trois villages ont bénéficié d'un reboisement. L'initiative vise aussi à préserver les forêts sacrées, des lieux essentiels, notamment dans la culture animiste. Amandine Réau vous raconte tout ça depuis le village de Plaquebo, c'est au nord du pays.
Quelques habitants du village de Plaquebo font le tour du bois sacré.
Les arbres poussent bien. En quelques semaines, ils ont grandi.
C'est le teck ici. Vous voyez, c'est un pied d'arbre de teck qui a aussi qui a poussé. Donc voilà, un peu. Je mine toujours le reboisement. Je pense que les 90% des pieds d'arbres ont vraiment poussé, ont pu survécu.
Et par contre, ils sont un peu ensevelis par les mauvaises herbes.
Oui, bon, vous savez, les parents, et chaque fois, il faut venir pour leur dire encore des choses. Et je pense que quand on va leur dire cette fois-ci, ils vont tenir compte de l'état pour pouvoir nettoyer les herbes autour des pieds d'arbres. Parce qu'ils sans les protéger, sans qu'ils ne les protègent pas, ils ne peuvent pas survécu.
Teck, acajou, acacia, 300 pousses d'arbres au total plantés autour de la forêt sacrée, un lieu de culte naturel et secret au cœur des traditions animistes.
Et donc moi, comme je suis une femme, je ne peux pas entrer, c'est ça?
Oui, vous ne pouvez pas rentrer dans le bois sacré, malheureusement. Ce n'est pas de notre faute, c'est une culture, c'est une tradition, donc nous l'honorons.
C'est seulement après la ménopause que les femmes sont admises ici, le lieu est réservé aux hommes. Pendant 7 ans, ils y apprennent la chasse, l'utilisation des plantes médicinales et le vivre ensemble, comme l'explique Alizana Koulibaly, promoteur culturel.
On apprend à son prochain de respecter les aïeux, de respecter les aînés aussi. On vous apprend comment vous devrez vivre avec l'autrui, votre prochain, votre semblable. Et même celui qui n'est pas de même société que vous, comment vous devez vivre avec lui pour être en harmonie et en parfaite collaboration.
En 50 ans, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de ses forêts primaires. Le bois sacré de Plaquebo a lui aussi rétréci comme peau de chagrin. Les habitants ont coupé les arbres pour cuisiner ou construire des maisons. Aujourd'hui, l'intérieur de la forêt est visible de tous, ce qui perturbe les initiés. Brahima Soro, président des jeunes du village.
À un moment donné, on a eu l'idée de construire une clôture autour du bois sacré pour permettre aux habitants d'aller dans notre lieu de culte. Mais on avait peur qu'elle tombe et alors tout ça n'aurait servi à rien. Donc le reboisement, c'était un honneur pour nous. Nous serions même prêts à replanter d'autres arbres.
Nawa Soro, le chef du village, a d'ailleurs continué le travail après le passage de l'ONG.
Si ce lieu commence à être déforesté, ça entraîne certains méfaits. J'étais tellement content du reboisement qu'un jour, où j'observais les pousses, j'ai vu qu'il y avait de grands écarts entre les arbres. Je me suis dit que j'allais en planter aussi moi-même. Donc je suis allé chercher les pousses de Jatropha et je les ai plantées.
Alexis Sekongo est président de l'ONG Balafon du Nord. C'est lui qui est à l'origine du projet financé sur fonds propres avec l'aide des eaux et forêts.
Quand on regarde aujourd'hui les changements climatiques, et quand on regarde aussi l'écologie, il faut vraiment trouver toutes les formules, toutes les mesures nécessaires pour pouvoir vraiment protéger la végétation.
En Côte d'Ivoire, les problématiques environnementales sont rarement prioritaires, mais en alliant tradition et écologie, l'initiative a séduit.
On nous dit même à l'école que les arbres appellent la pluie. Donc plus il y a les arbres, plus il va pleuvoir. Donc plus il pleut, il y a moins de chaleur. Quand on regarde le calendrier, à telle période, c'était la saison des pluvieuses, mais vous voyez que les saisons changent, les pluies se font rares. Donc moi-même personnellement, en tant que fils et très passionné de la culture, je me suis inquiété, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'on a plus la savane herbeuse qu'une savane arborée. Alors donc ça m'a inquiété, donc d'où est venue l'inspiration de déjà prendre le plus tôt possible cette initiative pour ne pas que demain soit un surprise.
Alexis Sekongo compte renouveler l'opération dans 3 à 4 villages par an. Il espère que son modèle fera école.
Amandine Réo en Côte d'Ivoire pour Un Jour dans le Monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, ça se passe sous les radars. Et ça fait comme ça. Là, ce sont des chants qu'on entend, Amélie Perrier, oui. Mais vous nous emmenez en Inde, à Bombay, où les étudiants manifestent là, devant la porte de l'Inde.
Oui, monument emblématique, une grande arche où des jeunes protestaient. Donc ce matin, ce sont leurs chants que vous entendez là. Ils protestaient contre les violences subies par d'autres étudiants, ceux de la très célèbre université Nehru de New Delhi. Cette université, c'est un peu comme notre Sorbonne à Paris. Hier soir, elle a été attaquée par une centaine d'assaillants masqués, armés de bâtons et de barres de fer. Alors voilà, vidéo tournée au portable par l'une des étudiantes attaquées. Il est 18h30, la nuit vient de tomber. Des hommes cagoulés s'en prennent violemment aux étudiants et aux professeurs qu'ils croisent. Ils saccagent les locaux. Les assaillants visent particulièrement la présidente du principal syndicat étudiant de l'université. On verra ensuite sur les réseaux son visage couvert de sang. Alors, qui sont les auteurs d'un tel raid? Bokuku accuse un autre syndicat étudiant proche du pouvoir parce que les victimes ont été obligées de chanter des hymnes nationalistes. Quant au gouvernement nationaliste hindou, il a réagi très tardivement et très timidement à l'attaque. La JNU, comme on appelle cette université, est l'une des plus prestigieuses du pays. C'est aussi le creuset d'une pensée libérale et laïque que le gouvernement combat, surtout en ce moment où il défend tant bien que mal sa loi sur la citoyenneté. On vous en a parlé ici, cette loi anti-musulmane. En tout cas, l'opposition indienne et les intellectuels laïcs dénoncent depuis ce matin la dérive fasciste d'un gouvernement qui chercherait à éduquer la jeunesse par la violence et la force.
Allez, dans le registre, notre planète se dérègle. On parle beaucoup évidemment des incendies en Australie, on parle beaucoup moins des inondations en Israël.
Image impressionnante ici de Tel Aviv inondée. Les rues sont envahies par l'eau, les voitures couchées sur le flanc. Des pluies records ont été enregistrées ce week-end dans le centre d'Israël, des torrents en pleine ville. En 2 heures, il est tombé l'équivalent de 15 jours de pluie. Un déluge d'une rare violence et 2 victimes à Tel Aviv. Un jeune couple pris au piège dans l'ascenseur de leur immeuble. Et là, ce que vous entendez, ce sont les secouristes. En fait, ce sont des plongeurs avec bouteilles et des tendeurs. Ils sont allés récupérer les corps dans les sous-sols de l'immeuble totalement rempli d'eau. De l'eau boueuse, marron, presque pas de visibilité. Opération très compliquée donc pour ces plongeurs. 2 morts et des habitants très en colère contre la mairie. Selon eux, elle a ignoré les avertissements, les canalisations bouchées par des débris en tout genre, les infrastructures médiocres qui ne permettent pas une bonne évacuation des eaux de pluie. Ce sont surtout les habitants du sud de Tel Aviv, des quartiers modestes, ouvriers, et les habitants de Jaffa, les quartiers à majorité arabe, qui se plaignent du manque d'action de la mairie. Et comme le conflit avec les Palestiniens n'est jamais loin, à Gaza, les autorités accusent Israël d'avoir ouvert les vannes de ses barrages et inondé les terres agricoles du territoire palestinien.
Allez, on termine beaucoup plus légèrement avec une star déchue dans son propre pays.
Une star du foot, il est suédois, il a joué au Paris Saint-Germain, 116 sélections nationales, 62 buts, il mesure 1m95 et son ego bien plus encore. Vous l'avez, Fabienne, vous le connaissez,
ouais.
Zlatan Ibrahimovic, il avait sa statue devant le stade de Malmö, dans le sud de la Suède. Elle a été déboulonnée ce week-end en pleine nuit, ses pieds sciés, la statue s'est écroulée contre la barrière autour, car sa ville natale lui en veut à Zlatan. En novembre dernier, Ibra, qui joue désormais à l'AC Milan, a annoncé une opération financière pas du tout du goût de ses supporters. Écoutez celui-ci au micro de l'AFP. Alors on comprend que les gens soient fâchés, dit-il, car il est entré dans le capital d'Amarby. Mais c'est peut-être un peu exagéré quand même de scier la statue et de la faire tomber. Hammarby, c'est un club rival de Malmö, un club de Stockholm. Une trahison très mal vécue donc. Depuis, la statue en bronze inaugurée en grande pompe en octobre n'a cessé d'être dégradée jusqu'à sa chute ce week-end. Beaucoup d'habitants réclament qu'elle soit déplacée. Une initiative citoyenne dans ce sens doit être étudiée le mois prochain.
Eh ben dites donc, il y a des gens qui ont de vrais problèmes. Merci beaucoup, oui, Amélie Perrier. On se retrouve demain. Tiens, une douceur peut-être, Amélie. Un homme en sucre, chanté par Rodriguez, c'était il y a 50 ans.
J'adore.
sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. You hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal.
Le Sugarman de Rodriguez sur France Inter. Allez, ça va être beaucoup moins sucré avec ce qui suit, croyez-moi.
France Inter, un jour dans le monde.
That information. That was false and fake.
Le Monde selon Trump, saison 3, et Grégory Phillips. Grégory, vous êtes donc à New York pour l'ouverture du procès Harvey Weinstein, dont on parle évidemment beaucoup ce soir. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est en quoi cet énorme tsunami a touché aussi la politique. Grégory, est-ce que MeToo a changé des choses dans la politique américaine ?
Bah oui, incontestablement. Évidemment, l'onde de choc a été ressentie dans le monde du cinéma. On le voit aujourd'hui à New York avec l'ouverture de ce procès, dans le monde des médias américains, mais aussi de la politique. En 2 ans et demi, j'ai compté, il y a une dizaine de congressmen qui ont démissionné, visés par des accusations de harcèlement ou d'agression sexuelle, des deux côtés de l'échiquier politique d'ailleurs, démocrates comme républicains. Chez les démocrates, il y a eu, souvenez-vous, l'affaire Al Franken, sénateur du Minnesota, très médiatique, qui était vraiment une figure importante du parti. On a retrouvé une photo de lui en train de poser ses mains sur la poitrine d'une journaliste endormie lors d'un déplacement. Et puis côté républicain, je ne sais pas si vous vous souvenez, Fabienne, du scandale Roy Moore, ce juge Moore qui, aux dernières élections de mi-mandat, se présentait au poste de sénateur d'Alabama. Le juge Moore accusé par plusieurs adolescentes de comportements inappropriés et qui pourtant, pendant sa campagne, avait reçu un soutien appuyé, en l'occurrence celui de Donald Trump.
Alors, Grégory, c'est quoi cette histoire de cagnotte du Congrès destinée à cacher les scandales sexuels réellement ?
Alors, ça, c'est vraiment étonnant. C'est MeToo qui a permis de découvrir l'existence de cette cagnotte. Entre 97 et 2017, pendant 20 ans, ce bureau du Congrès a dépensé 17 millions de dollars pour garantir la confidentialité de plusieurs affaires de harcèlement et donc aussi de harcèlement sexuel, tout ça afin d'éviter des poursuites à l'égard de sénateurs ou de représentants du Congrès. C'est donc l'argent du contribuable américain qui était versé aux victimes pour acheter leur silence, pour trouver un accord au civil. Et ce n'est qu'en 2018, donc grâce à MeToo, que les représentants ont voté un texte pour dire que ça suffisait, que les élus impliqués dans ce genre d'affaires devaient verser eux-mêmes sur leur propre deniers, sur leur propre dollar, les sommes à leurs éventuelles victimes. Ça, c'est directement une conséquence de MeToo qui a mis ça en lumière.
Alors attendez, Grégory, on sait combien il y avait dans cette cagnotte, par curiosité ou pas?
Alors, on sait que 17 millions de dollars ont été dépensés. D'accord. Et versés à des victimes pendant 20 ans.
D'accord. Il ne faut pas oublier, Grégory, que vous avez un président accusé de harcèlement ou d'agression sexuelle par de nombreuses femmes, par ailleurs.
Oui, alors, encore à l'automne dernier, il y a eu ce livre intitulé « Les femmes du président, la construction d'un prédateur ». Il y a plusieurs dizaines de femmes qui accusent Trump de comportement inapproprié à minima ou de contact sexuel non consenti. Trump a toujours nié, accusant même parfois ses accusatrices de vouloir se faire de l'argent sur son dos. Mais c'est vrai, Fabienne, qu'il y a cette ombre qui pèse sur Trump. Lui qui se vantait en 2005 dans une vidéo enregistrée à son insu de pouvoir attraper toutes les femmes by de pussy. Je vais pas vous traduire. On l'a déjà fait. Lui qui a poussé un juge, Brett Kavanaugh, jusqu'à la Cour suprême, alors que ce juge était soupçonné d'agression sexuelle quand le magistrat était plus jeune. Et puis, il faut se souvenir aussi que l'élection de Trump avait fait descendre des centaines de milliers d'Américaines dans la rue. Et d'ailleurs, une nouvelle marche des femmes, la quatrième, est annoncée pour la mi-janvier à Washington, New York et dans d'autres villes.
Voilà, avec les fameux pussy hats qu'on avait vu fleurir à ce moment-là. C'était après l'investiture. Une dernière chose, Grégory, MeToo, est-ce que ça peut jouer un rôle réellement sur la présidentielle en novembre ou pas?
Alors, écoutez, aux élections de mi-mandat, on a vu qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se sont portées candidates et beaucoup plus de femmes, beaucoup des démocrates qui ont été élues à la Chambre des représentants. Alors, est-ce que c'est une conséquence directe de MeToo? C'est compliqué à analyser. En tout cas, les femmes, après l'élection de Trump, se sont plus lancées en politique. Là, il y a la présidentielle en ligne de mire, novembre 2020. Au moment où on se parle, il reste 14 candidats en lice démocrates pour affronter Trump. Il y a deux femmes qui se dégagent, Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota, et Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts. Warren est, au moment où on se parle en tout cas, la seule femme susceptible éventuellement d'aller assez loin dans cette course à l'investiture démocrate et peut-être d'être désignée comme l'adversaire de Trump. Mais a priori, la course est largement dominée par les hommes pour cette présidentielle 2020.
Merci beaucoup Grégory Phillips avec nous en direct de New York. On vous retrouvera tout à l'heure, Grégory, dans le journal de 19h au procès Weinstein où donc vous êtes. Allez, 18h presque 55.
Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Et Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers. Jean-Marc, j'avais perdu ma feuille, je vais tout raconter. L'escalade entre l'Iran et les États-Unis continue d'inquiéter toute la planète. Jean-Marc, Sébastien Paour, on va y revenir là pour le coup dans le journal de 19h. Mais vous, ce qui vous frappe dans ce dossier, ce n'est pas l'attitude des deux protagonistes en présence, Washington et Téhéran, c'est plutôt le grand absent qu'est l'Europe, et c'est votre monde à l'envers.
Bon, on ne va pas s'étonner de la politique des coups de menton de Donald Trump et de cette opération d'assassinat ciblé du général Soleimani. On ne va pas s'étonner non plus de la réaction populaire nationaliste massive que cet assassinat vient de susciter en Iran. Tout ça est finalement dans l'ordre des choses. Non, le plus flagrant, en effet, je trouve, dans toute cette histoire, c'est à quel point l'Europe ne semble plus servir à rien dans ce dossier comme dans d'autres. Mais restons d'abord sur cette affaire iranienne. Voilà donc les Européens finalement condamnés à être des spectateurs impuissants de l'escalade, mis devant le fait accompli par Donald Trump, qui s'était bien gardé évidemment de les prévenir de ce raid ciblé contre le général iranien. Et les Européens contraints malgré tout, quelle humiliation quand même de soutenir Washington, parce que c'est un réflexe envers l'allié traditionnel. Ça donne donc ce communiqué commun, vous le trouverez d'ailleurs sur le site de France Inter, ce communiqué la nuit dernière, signé Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson, qui ne critique en rien Washington et à l'inverse appelle Téhéran à la modération. Cet engrenage, il solde aussi l'échec de la médiation européenne, française en particulier, sur le dossier du nucléaire. Jamais Emmanuel Macron n'est parvenu à ramener Donald Trump à la raison, a fortiori à le faire rencontrer Hassan Rouhani, son homologue iranien. Ajoutons que les Européens se seront donc montrés incapables de monter un outil commercial d'une ampleur suffisante pour contourner les sanctions américaines contre Téhéran. Bref, c'est un flop et cet avis que j'évoquais des chefs d'État européens ne suscite plus guère d'intérêt nulle part, à part chez nous et encore. Si médiation de la dernière chance, il peut encore y avoir entre Washington et Téhéran, Il faudra peut-être regarder davantage du côté d'Oman ou du Japon. Bref, on a l'impression que l'Europe compte pour des prunes.
Et vous faisiez allusion, Jean-Marc, tout à l'heure à d'autres dossiers où c'est la même chose.
Oui, chercher le point commun entre l'Irak, la Libye, la Syrie. Finalement, la réponse, c'est qu'à chaque fois, l'Europe disparaît, s'efface du paysage. Prenons la Libye. En 2011, c'est pourtant nous, Français en tête, qui avons favorisé l'intervention militaire et le renversement de Kadhafi. 8 ans plus tard, la guerre est toujours là, mais ce sont de nouveaux acteurs qui sont au poste de pilotage. Quels acteurs ? Du côté du gouvernement légitime de Fayez al-Sarraj, le Qatar et surtout la Turquie. La semaine dernière, on le sait, le président Erdogan a donc obtenu de son parlement un feu vert pour l'envoi de troupes turques en Libye. En face, du côté du maréchal Haftar, la logistique de l'Égypte, les drones des Émirats arabes unis et les mercenaires russes. L'Europe, qui ne regarde la question libyenne que par le prisme de l'enjeu migratoire, est divisée. Rome et Paris n'ont pas le même avis. Et la conférence internationale sur le sujet prévue théoriquement ce mois-ci à Berlin pourrait bien être repoussée au calendrier grec. Bref, l'Europe, là encore, compte désormais pour du beurre. En Syrie, même topo, je reviens pas sur l'abandon des Kurdes en rase campagne. Maintenant, c'est le tour d'Idlib, dernier bastion des forces démocratiques syriennes. Donc, entre le retrait américain, l'offensive turque, les ingérences russes et iraniennes et les vétos chinois, l'Europe est impuissante. Et l'opération militaire française Chammal est proche de la porte de sortie. Fermez le banc.
Et donc, Jean-Marc, ce déclin, cette marginalisation diplomatique de l'Europe, tout ça, c'est inexorable.
C'est bien possible, oui. Parce que les Européens sont trop petits militairement, avec assez peu d'envie de prendre des risques sur le terrain, parce qu'ils sont aussi trop petits et trop désunis et diplomatiquement. Il ne leur reste que la puissance du verbe, c'est d'ailleurs ce qu'avait magistralement utilisé Jacques Chirac en 2003 pour s'opposer à la guerre en Irak, ça n'avait rien empêché, mais symboliquement, la France avait marqué des points. Cette fois, rien, du moins pour l'instant, la place est donc libre pour d'autres acteurs, russes, chinois, turcs, iraniens, etc. Les Européens, finalement, ne veulent pas faire le deuil de leur allié traditionnel, Washington, qui n'est pourtant plus un partenaire fiable, et ça signifierait admettre dans la foulée que pour peser, les Européens sont désormais condamnés à parler d'une même voix en mettant leurs divergences en sourdine, à bâtir une défense commune et à utiliser leur poids commercial comme un levier. Sinon, en effet, oui, le déclin pourrait être inexorable, nous condamnant à devenir ces spectateurs impuissants d'un monde très instable et dirigé par d'autres. C'est pas rassurant, mais c'est comme ça.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, merci beaucoup. Jean-Marc, à demain, dans un instant, le 18-20. La suite, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.